Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Lisa. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
Merci à toi.
Donc, tu as créé la marque Lao, ou Lao Care.
On peut dire Lao.
Alors, ça fait quelques mois que je te vois sur les réseaux, et surtout sur LinkedIn. En janvier, je t'ai vu ça sur LinkedIn, à demander l'avis pour des flacons. Donc, il s'est passé quoi entre-temps, entre l'année dernière et début d'année?
Il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, l'année dernière, j'ai commencé par un startup week-end. J'ai lancé Lao comme ça. Je pourrais revenir dessus plus tard si tu veux. Ensuite, je me suis occupée des financements. Une fois que j'ai sécurisé les financements et que j'ai trouvé mon labo pour faire la formulation de mes produits, là, j'ai commencé à m'attaquer un petit peu à tout ce qui était création. Et ce que tu as pu voir, c'était les débuts de la co-création de Lao avec notre petite communauté qui s'est créé au fur et à mesure autour du projet, qui a grandi avec le projet. Et donc, on a pu tout simplement transmettre plusieurs questionnaires sur tous les aspects du développement du shampoing, des produits, et avoir les avis des gens.
En gros, tu as commencé donc un startup week-end à Strasbourg?
Non, à Nantes. En fait, c'est tout simplement parce que quand j'ai décidé de faire le startup week-end, c'est parce qu'à l'époque, j'étais étudiante, entre 2 années d'études, et j'allais signer pour une alternance dans un gros groupe de luxe. Et à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis retrouvée un peu face à deux portes. J'avais une intuition qu'il fallait créer les produits que j'allais créer. Mais je n'étais pas sûre. Et je ne savais pas trop si j'osais me lancer ou pas, si j'avais la légitimité pour, les compétences. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un startup week-end, en fait. C'était pour me prouver à moi, pour savoir si moi, j'avais les compétences pour le faire ou pas. Et du coup, j'ai signé pour le premier startup week-end qui arrivait. Et je me suis retrouvée à Nantes. Je n'avais jamais mis un pied dans l'Ouest. Et je me suis retrouvée comme ça, là-bas.
T'es allée à Nantes parce que c'était le premier sur la liste des startups week-end qui était disponible.
Exactement.
J'ai dit, je vais tester maintenant, donc il m'en faut un. Et t'as pris tes valises et t'es allée à l'autre bout, quoi.
Ouais. Il me restait que quelques jours. Hein. Là, la chef de groupe du gros groupe où j'étais sur le point de signer, elle m'envoyait des SMS pour me proposer qu'on se voit le vendredi. Et moi, j'étais là le mardi à hésiter, je savais pas trop. Et finalement, je lui ai proposé qu'on se voit le lundi. Et j'ai pris le premier week-end, c'est tombé ce week-end-là. Donc, si tu veux, en une semaine, j'ai changé le cours de ma vie, on va dire ça comme ça.
Et est-ce que... Enfin, j'ai plein de questions par rapport à ça, mais je me dis... Déjà, est-ce que le gros groupe était dans tes valeurs, en fait? Parce que là-haut, c'est genre...
Non, pas trop.
Des valeurs très particulières. Et je me dis, ouais, t'aurais pris une porte, mais différente. Tu penses gros groupe égale grosse industrie, fait je ne sais où, qui pollue certainement.
En fait, c'est un peu l'opposition entre les valeurs et ce que t'aimes faire. Moi, ce que j'aime faire, c'est du marketing. Le must, c'est le marketing avec mes valeurs. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. Mais sinon, ce que j'aime, c'est le marketing, développement produit, c'est découvrir des choses, apprendre. Et quand t'es étudiante, tu peux pas trop te permettre... forcément d'être picky, on va dire, sur les entreprises dans lesquelles tu postules. Et moi, ce groupe-là, ça m'intéressait parce que je savais que j'allais apprendre plein de choses. C'était ça que je voulais. Et voilà, c'est vrai qu'il y a une opposition entre les valeurs et tout ça, mais pour moi, quand tu postules dans un gros groupe, tu sais que de toute façon, vu que c'est pas toi qui décides, et même si t'es chef de produit, c'est pas toi qui décides, c'est toujours au-dessus. Tu sais que de toute façon, d'une façon ou d'une autre, tu mets une croix sur tes valeurs. Il y en a plein hein, comme ça.
Et c'est soit tu y arrives à mettre une croix, parce que tout le monde n'arrive pas à mettre une croix sur ses valeurs.
Il y a beaucoup de gens qui supportent pas. Moi, c'est très dur. Hein. Si tu veux, quand j'étais en stage, même dans un autre groupe de cosmétiques avant, ce que je faisais, c'est que dès que je pouvais inclure un peu mes valeurs, je le faisais. Tu vois, par exemple, on était en train de choisir... le flacon d'un spray, et ils m'ont dit, il y en a un qui est en plastique recyclé, l'autre en plastique pas recyclé, lequel tu préfères? Évidemment, j'ai dit le recyclé, tu vois, même s'il était moins beau. J'ai choisi le recyclé. On a fait un tri dans les produits concurrents qui traînaient depuis littéralement 10 ans, sans exagérer. Ils m'ont suggéré de tout jeter comme ça. J'ai dit, non, pas question. J'ai tout séparé, le carton, des crèmes. Je suis allée m'assurer auprès de la direction du site que ça allait être vraiment recyclé. J'ai fait comme j'ai pu, un peu à mon échelle, mais c'est clair que tu peux pas faire les choses parfaitement, quoi.
Et donc, en créant là-haut, là, t'as tes valeurs.
Ouais, là, là, je peux faire ce que je veux, en fait. Et c'est ça qui est génial. Et je sais que mes valeurs, elles sont partagées par de plus en plus de monde. Mes valeurs, c'est tout simplement le fait d'être éthique et d'être engagée et de faire les choses avec du bon sens. Moi, c'est le bon sens que je prône. Je ne suis pas une personne écolo. Moi, c'est ce que je dis souvent. Je dis, je ne suis pas une personne écolo, je suis une personne qui a du bon sens. Je pense que le fait de respecter l'environnement dans lequel on évolue, ça relève du bon sens. Donc voilà ce que je fais un peu au quotidien, juste du bon sens.
Bon, le Startup Weekend, on va dire qu'il s'est très bien passé. Ça t'a ouvert les yeux, en fait, et l'envie de te lancer.
Ouais, totalement. Si tu veux, c'était ça. Hein, c'était vraiment la validation de mon idée que je voulais à travers le Startup Weekend. Et ça tombe bien, puisque c'était exactement ça pourquoi c'était fait. Hein. Startup Weekend, ça sert à valider ton idée ou pas, et après à te lancer. Et moi, c'est ce qui s'est passé.
Qu'est-ce que tu as validé là-bas ?
Ouais, en fait, si tu veux, j'ai commencé avant le Startup Weekend, si tu veux, j'étais juste une... J'étais à la fois une consommatrice de produits cosmétiques et à la fois une marketeuse, développement produit. C'est-à-dire que mon métier, c'était de développer les produits cosmétiques sur les plusieurs années à venir, tu vois. De travailler avec les laboratoires, avec la recherche, avec le digital, la communication, avec tout ce que tu peux imaginer pour créer des produits. En fait, là-haut, c'est un mélange de tout ça. C'est un mélange du fait que moi, j'ai une curiosité de comprendre ce qu'il y a dans les produits cosmétiques et leur effet sur la peau, le cheveu, l'environnement. Et c'est aussi une combinaison avec le fait qu'en tant que consommatrice, je me suis retrouvée à un moment de ma vie extrêmement frustrée parce que j'ai voulu passer au naturel pour mes cheveux. Et en fait, ça a été la vraie catastrophe. Je me suis retrouvée avec des cheveux poisseux, des cheveux secs. J'ai eu en même temps l'expérience de voir que ben, les produits cosmétiques naturels, souvent en termes de sensorialité, c'est pas ça. Ça mousse pas, c'est pas aussi agréable à utiliser que les chimiques. Et en plus, quand je me suis penchée sur les compositions, alors là, c'était la cata, quoi. Aussi bien sur le naturel ou pseudo-naturel que sur le chimique, il y avait zéro transparence sur l'origine et le mode de fabrication des ingrédients. Et voilà, c'était pas clean, c'était pas éthique. Et c'est un peu venu de ce double constat de moi, je suis marketeuse, je m'intéresse aux produits et je vois qu'il y a un problème. Et je suis consommatrice et je trouve pas ce qui me plaît. Ça a été, si tu veux, mon idée. Et après, je suis allée en Startup Weekend, j'ai dit voilà les gars, voilà ce qui se passe. Est-ce qu'on ferait quelque chose ensemble ?
Parce qu'en effet, pour être franc, les shampoings solides, naturels, c'est une catastrophe.
Il y a tellement de gens qui les supportent pas, bah ça a été mon premier constat, ouais.
Mais je comprends pas, en fait, pourquoi ils sont... Des fois, tu te laves les cheveux et genre, ils sont d'une texture quand tu te les sèches, mais moi, j'étais là, mais c'est ça.
Il y a une explication scientifique à ça. Je te l'explique en 30 secondes. Il existe deux types de shampoings solides. Il existe ceux qui sont vendus comme shampoings alors que ce sont des savons. Le pH est trop basique pour les cheveux, ça va venir ouvrir tes écailles, ça va les assécher, ça va les abîmer et ça va les emmêler. Et ensuite, il y a ceux qui sont plutôt des vrais shampoings solides et qui sont faits à partir de tensioactifs, donc d'agents lavants. Et ceux-là, malheureusement, le problème, c'est qu'ils sont trop concentrés pour les cheveux puisqu'ils sont 2 à 3 fois plus concentrés qu'un shampoing liquide en tensioactif, en agent lavant. Donc, ils vont des fois avoir tendance à sécher le cheveu ou irriter. C'est pas le cas pour tout le monde, évidemment. Mais en tout cas, voilà l'explication scientifique au fait que ça dérange beaucoup de monde.
J'ai même une copine qui m'a fait un shampoing solide. Mais c'est une catastrophe. Mais c'est fou.
Ah ouais, ça m'étonne pas. Hein. Ouais, bah moi j'ai eu ça exactement.
Et t'es la seule à avoir constaté ce fait scientifique et dire « Ok, je vais faire un truc un peu plus logique vu qu'il y a ça comme données ».
Non, je suis pas la seule à le savoir, mais je suis parmi les seules à agir en conséquence parce que ouais, y a beaucoup de choses à savoir sur les shampoings solides, les shampoings liquides, c'est hyper, hyper technique, c'est un des cosmétiques les plus compliqués à faire. Mais si tu veux, mon constat numéro 1, ça a été « Je veux faire un shampoing solide, mais 1, ils sont pas extrêmement clean pour l'environnement en termes de composants. 2, ils sont trop concentrés en tensioactif. 3, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la gestuelle. Le fait de se frotter un pain de trucs sur les cheveux, ça leur plaît pas toujours. Donc en partant de ça, j'ai dit ok, je vais plutôt réinventer le liquide. Parce qu'en fait, comme tout le monde est en train de se faire la course à sortir des produits solides, plus personne s'intéresse à faire des bons liquides. Et moi, je me suis dit ok, bah tant pis, je vais contre-courant de la tendance et je vais faire un bon liquide, un bon shampoing liquide. Et quel était le problème majeur avec le shampoing liquide ? C'était le flacon. Parce que si les gens se tournaient vers le solide, c'est parce qu'ils voulaient éviter le flacon et le plastique. Donc j'ai résolu ce problème en choisissant de faire un flacon qui soit en aluminium consigné chez les coiffeurs et magasins bio.
C'est vrai que c'était une super bonne idée et j'ai l'impression que ça revient un peu le flacon recyclé.
Ouais, exactement. Il y a plein de systèmes qui sortent, comme du vrac par exemple. Moi, le vrac, je suis pas toujours pour parce que c'est bien si le conso, lui, il a pas d'emballage. Mais si plus haut dans la chaîne de valeur, le magasin bio, il est obligé d'utiliser des gros bidons en plastique épais, je trouve que ça fait pas toujours sens. C'est pour ça que j'ai choisi ce mode de fonctionnement-là, que ce soit magasin bio ou coiffeur ou autre chose. Je trouvais que la consigne, ça marchait bien. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, il n'y a pas de solution parfaite quand ça concerne l'emballage.
C'est au mieux, quoi.
Exactement. C'est beaucoup de recherche, beaucoup d'analyse, et puis on fait ce qu'on peut, quoi.
Et je trouve, dans ton projet, ce qui est le plus audacieux pour moi, mais vraiment, c'est les parfums que tu utilises.
Ah ouais ? Vas-y, dis-moi pourquoi.
Parce qu'on est tous là à vouloir sentir le patchouli, tu vois. Et toi, tu m'as dit chanvre, l'ortie. Et en fait, moi, j'avoue que je regarde ça et je fais, c'est très bobo, c'est fun, pourquoi pas.
Ouais.
Mais en tant que consommatrice lambda nulle qui prend son shampoing à 2,30€ parce qu'elle a une couleur, tu vois, et qu'elle déteste les solides, eh ben j'avoue que moi, je me dis, le chanvre, j'aime bien parce que ça fait travailler Guillaume de Chanvrel, tu vois. J'avoue que ça me dit, ah ouais, vu que je connais, c'est cool, mais je trouve ça hyper audacieux. Parce qu'on est tous là à vouloir sentir la vanille de je sais pas où, là, qu'on... que c'est même pas de la vanille, que c'est, ou que ça vient de hyper perpète, là. Enfin, moi, je trouve ça hyper audacieux et original, en fait. Tu te démarques aussi.
Alors, en fait, sur les shampoings, il y a deux choses qu'on distingue. On distingue les actifs des parfums. Si tu veux, il y a un petit trick là-dedans.
Tellement pas calé là-dedans, désolée.
Je vais t'expliquer. T'en fais pas. T'as les actifs. Les actifs, c'est ce qui va agir sur le cheveu, qui va apporter un bénéfice aux cheveux. Donc là, ouais, t'as identifié, on a le chanvre qui va être l'huile de graines de chanvre qui va venir nourrir le cheveu, qui va apporter de la nutrition. Et on a l'hydrolat d'ortie qui a un pouvoir séborégulateur, donc qui va aider à purifier le cuir chevelu et ça va aider pour les cheveux gras. Et en fait, si tu veux, l'odeur des shampoings, c'est pas du tout l'odeur des actifs. Parce que les actifs vont venir juste apporter une dose de soin qui va répondre à un problème de cheveux. Mais le shampoing, il sent bon. Et en fait, justement, ça a été ce débat de se dire au début, est-ce que je mets du parfum ou pas dans les shampoings ? Parce que il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais sans parfum, c'est mieux, ça fait plus nature. » Mais en même temps, moi, je suis comme toi. Je pense que quand on ouvre un shampoing, on a envie que ça sente bon, quoi. On n'a pas envie que ça sente mauvais ou que ça sente rien. On est déçu quand ça sent rien. Et du coup, je me suis dit « Ok, je vais trouver des bons parfums. » Et je suis allée à Grasse. Enfin, j'ai contacté des producteurs de parfums à Grasse. Et on a choisi des super parfums. Et donc, si tu veux, le shampoing au chanvre, il sent pas le chanvre, parce que le chanvre, ça sent un peu bizarre, ça sent un peu l'herbe. Et ça sent, il sent du coup l'amande, celui-là, l'amande fleurie. Et le deuxième, il sent les fruits, il est un peu fruité comme ça, il sent un peu la pomme. D'ailleurs, on s'est amusé à aller dans Strasbourg, dans les rues de Strasbourg, pendant la campagne de crowdfunding, on a fait sentir les parfums des shampoings aux gens. Parce qu'on s'est dit que les gens qui achetaient en ligne, ils pouvaient pas savoir ce que nos shampoings sentaient. En plus, on n'en parle pas trop de nos parfums. Et du coup, on a fait ce petit blind test dans les rues de Strasbourg et ça a trop plu aux gens. Je t'invite à regarder la vidéo.
Je suis une fan ultime de tes vidéos. D'un niveau où je veux faire, voilà, spoiler alert, complètement HS de mon podcast, mais je veux faire une vidéo sur la data analytique. Et en fait, de montrer de ce que je fais, mais pas de « ouais, je suis data analyst et tout ». Tu vois, pas le truc barbant. Et je pense qu'une vidéo, c'est vachement cool. Et tu peux mettre tellement d'émotions que le réel avec qui je travaille, j'ai envoyé ta vidéo. Et il me fait « ouais, mais le drone, c'est un peu cher, je lui. T'inquiète pas, on n'a pas besoin de filmer des champs. » Non, mais c'est l'idée, c'est l'émotion, tu vois. Quand ouais. Trop bien, cette vidéo.
Ouais.
Il était là « ok, je vois ». Mais je trouve tes vidéos incroyables. J'ai vu la vidéo où tu vas dans Strasbourg, j'étais là. Cette idée incroyable. J'étais là devant la vidéo, je me suis dit « ah ouais, c'est plutôt pas mal au niveau de la com. » On est d'accord.
En plus, on l'a improvisé, mais tellement, si tu veux, la semaine, on avait fait la semaine d'essence où on voulait faire sur l'odorat, la vue, le toucher, etc. Et celle-là, on l'a vraiment improvisée en deux jours, quoi. J'ai contacté une amie vidéaste, j'ai dit « bon, on a cette idée-là, qu'est-ce que t'en penses ?» Elle me dit « ok, on essaye, on a débarqué dans la rue comme ça. » Et on a fait ça comme ça en trois jours. Et au final, ça s'est trop bien passé, quoi. C'est super.
Les vidéos sont super bien. Ton produit est génial. La page U, elle est trop bien. Enfin, ça donne envie de vous soutenir. Mais je pense que la vidéo, elle est tellement puissante.
Et tout ça, c'est si important, hein. C'est ce qui finalement... tu vois, mon premier média, ça a été la vidéo. Quand j'ai gagné le Startup Weekend, je t'ai pas raconté, mais quand j'ai gagné le Startup Weekend, si je me suis un petit peu fait connaître au début sur LinkedIn, c'est grâce au format vidéo, puisque pour la finale du Startup Weekend, il fallait que j'aie des votes. Et donc, j'ai filmé une vidéo à Paris. J'ai eu la chance que le Startup Weekend de Nantes me finance un vidéaste pro qui est venu à Paris, qui m'a filmé. En quelques heures, vraiment, on n'avait pas dormi depuis trois jours. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, ça se voit tout de suite que j'ai pas dormi pendant trois jours. On filme cette vidéo en anglais en plus. Et la vidéo, je la poste sur LinkedIn sans trop d'espoir, en essayant juste d'avoir des votes. On tape 130 000 vues, des centaines de messages. Enfin, vraiment, beaucoup, beaucoup d'engouement. C'est là qu'on a eu la preuve de concept. Donc, si tu veux, la vidéo, ça a été mon format de cœur dès le début. C'est un format qui plaît aux gens et qui est authentique. Et c'est ce que je voulais faire aussi à travers la vidéo du crowdfunding. C'est pour ça que j'ai, dans la vidéo, tu vois David de Chanvrel... pour la production du chanvre. Tu vois Nathalie, notre formulatrice. Tu vois les rues de Strasbourg, parce que Strasbourg, c'est là où on crée là-haut, c'est là où moi je suis née. Et c'est, en fait, on a un petit peu mis tout ce qui me tenait à cœur dans la vidéo. C'est ce qui fait son côté un peu authentique.
La vidéo, elle est magique. Enfin, moi, je trouve que quand je l'ai vue, j'ai fait oh, « ouais, trop bien ». Et plein de plans, etc. C'est un rythme de fou.
Ouais, on a mis un mois à la tournée. Hein.
Oui, c'est parce que je me suis dit, t'as changé combien de tenues? Au moins 20 fois, tu vois.
Tellement, ouais, tellement, c'est ça. On a dû commencer, en fait, on a dû commencer beaucoup plus tôt que ce que je pensais, parce que les champs de chanvre allaient être récoltés. Je me suis dit, non, on va pas faire la vidéo sans les champs de chanvre, parce qu'ils sont juste à côté de chez nous, c'est trop authentique, on voulait trop le montrer. Et du coup, on a dû commencer très tôt. Et après, j'ai dû aller à La Rochelle filmer, je suis allée dans l'usine. Bon, on ne les a pas publiées, les vidéos, parce qu'elles n'étaient pas hyper intéressantes, vu que c'était surtout une visite de l'usine. Mais on les publiera plus tard pour la production, quand il y aura les shampoings dans les lignes de prod. Mais ouais, ça a été long, mais c'était cool.
Mais ça a été un succès. T'as fait quoi, 900%?
Ouais, on a fait 900% sur Ulule. On a convaincu plus de 500 personnes en un mois et on a vendu plus de 900 shampoings. Donc, c'est un très beau score pour un lancement. Et puis, on a fait des belles parutions presse aussi.
Par rapport au rendez-vous des audacieux, j'aimerais, c'est un documentaire et j'aimerais interviewer des gens à Paris, etc., que j'aime trop. Un crowdfunding, ça me permet de se faire connaître sur les réseaux, d'avoir une bonne relation presse. Je sais pas si t'es d'accord avec moi.
Le crowdfunding, il te donne de la visibilité, mais c'est surtout, comment dire, c'est surtout un moyen aussi de prévendre tes produits. C'est de la visibilité, de la prévente et du financier. C'est vraiment de te faire connaître et te faire connaître en bombe, on va dire. C'est un peu, tu fais ton lancement et tu le fais pas dans ton coin. Tu décides de faire un gros lancement. Et c'est pour ça qu'il faut bien 3 mois pour préparer un crowd.
Est-ce que tu as mis un petit montant de départ en disant... Enfin, pas un petit montant, mais Rémi, là, il m'a conseillé... Comme quoi, il faut faire un crowdfunding pas trop haut, atteignable rapidement.
Mm-hmm.
Comme ça, Ulule te met en avant, t'as pas besoin de payer, etc. T'arrives vite et quand t'arrives rapidement au 100%, les gens, ils enchaînent.
Exactement. Ah ouais, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on n'a pas mis 300, par exemple, en précommande. C'est important de commencer assez bas pour qu'il y ait l'effet de masse. Mais ça, c'est hyper connu, ouais, dans le crowdfunding.
Là, j'aimerais une vidéo qui vaut au moins 15 000 euros. Ma stratégie, c'est de taper 3 boîtes qui me financent 5 000 euros. Je me dis, mais c'est tellement accessible, tu vois. Mais c'est tellement simple.
Ouais, après, un budget vidéo, 15 000 euros de budget vidéo, c'est une grosse vidéo, hein. La mienne, elle...
que je vais aller à Paris, il faut payer le réal, le maquilleur, il faut payer quelqu'un qui fasse du backstage en photo pour avoir et de la vidéo. Donc il y a double montage, payer les nuits d'hôtel. Moi, me payer, je m'en fous en fait, c'est du kiff. Je veux juste payer les gens avec qui je travaille et pas être ric-rac et je sais pas, payer un Airbnb pour faire les interviews, tu vois. Je sais pas trop encore, mais je veux être large parce que la vidéo durera au moins une heure. 15 000 euros, c'est dans les tout. Et en fait, l'idée d'un projet plus gros, c'est genre d'aller faire des conférences. Voilà, on m'a donné une idée de conférence, ça me fait peur. Et après, voilà, et avoir ce crowdfunding pour faire connaître le projet.
Oui, totalement. Bah ouais.
Parce que je pense que le crowdfunding, c'est un super moyen, en fait, de te faire connaître dans la presse, surtout.
C'est ça, et en fait, si tu veux, le crowdfunding ne va pas forcément te faire connaître dans la presse en soi, ça va être ta stratégie de crowdfunding qui va t'amener à la presse. Mais ouais, plein de choses.
Mais c'est ton objectif, Nassou ?
De quoi ? Pour quelle partie ? Quel timing ?
Quantité, les shampoings ?
Bah, sur les précommandes, ouais. Après, bien sûr, on veut aller beaucoup plus loin maintenant. Maintenant, on part sur le déploiement en B2B. Maintenant, on part sur de beaucoup plus gros horizons. On ne va pas s'arrêter là, évidemment.
Mais t'es seule pour gérer tout ça ?
Ouais, je suis seule fondatrice. Après, j'ai une petite équipe qui s'est constituée autour du projet, qui est basée de freelance, d'agence... de stagiaires depuis moins de temps. Donc là, si tu veux, on est trois dans l'équipe plutôt presque à temps plein. Il y a Margot qui était en stage chez moi et maintenant elle est en freelance. Donc je l'ai gardée en freelance. Et puis j'ai une stagiaire en ce moment. Et puis voilà. Mais sinon ouais, je suis le seul pilote, on va dire, seul maître à bord.
Parce que là, t'es chez Semia, t'es incubé là-bas.
Ouais, exactement, ouais, je suis incubée chez Semia.
T'as pas eu des peurs ou des freins? Parce qu'en plus, t'es seule, enfin, pour gérer tout bateau qui prend forme et qui devient de plus en plus gros.
Ouais, au début, énormément de peurs, beaucoup d'appréhension. Enfin, moi, mes peurs, c'était pas de me lancer parce que j'ai toujours su que j'allais un jour un petit peu partir à l'aventure dans l'entrepreneuriat et que l'entrepreneuriat, c'était pas un long fleuve tranquille. Mais c'était plus la peur d'oublier des choses importantes qui me hantaient. C'était de me dire, si j'oublie un truc important, imagine que là, j'ai oublié un détail important. Et toute ma production, elle est retardée de 3 mois. C'est grave, tu vois. Comme je suis la seule fondatrice, j'ai beaucoup plus de chances que ça m'arrive, puisque je suis la seule à bord, quoi. Quand t'es deux, il y en a forcément un qui va se rappeler ou qui va y penser. Mais quand t'es seule, personne n'est là derrière toi pour te dire « Hé, t'as oublié un truc ».
T'as une grosse charge mentale.
Ouais, c'est ça. Donc au début, c'était ça. C'était la peur d'oublier un truc, de pas bien comprendre un autre truc. Parce que quand tu demandes à un prestataire un service, bah, il va juste te fournir un devis pour ce service. Souvent, il va pas t'apporter une notion de conseil, tu vois. S'il voit que tes choix sont mauvais, il va pas forcément te le dire. Donc, des fois, tu peux t'enfoncer dans ton ignorance, tu vois. Et moi, c'est ça qui me fait peur.
Mais est-ce qu'un bon prestataire, c'est pas de te dire, tu te plantes, là, ça va pas?
Pas toujours, ça dépend du prestataire, tu vois. Moi, les prestataires principaux, j'ai toujours pris des prestataires avec qui, tu vois, Nathalie, ma formulatrice, Ben et Joe, mes designers, ça, c'est des gens avec qui je suis proche. Mais après, pour les autres, par exemple, pour tout ce qui est plus réglementaire, en général, t'es pas très proche de ton réglementaire, tu vois. Enfin, quelqu'un qui va faire des tests pour toi, ça va pas être quelqu'un que tu vas appeler tous les jours, à qui tu vas raconter ta vie, à qui tu vas être très proche. Et du coup, eux, clairement, en général, ils sont exécutants plutôt, tu vois. Tu vas leur demander un truc, ils vont te le faire et basta, ciao. Et là, tu peux rater des trucs importants. C'est plus ça que je pense.
Personnellement, en tant que freelance, je me dis, tu vois, c'est la différence entre le freelance lambda et le freelance qui coûtera un peu plus cher, mais qui dira, ça c'est bien par rapport à son domaine d'expertise, ça c'est bien, c'est pas ouf, t'es sûr. Moi, je te conseille pas de faire ça, en fait.
Ouais, tellement.
Moi qui est dans la data analyse, justement, ce que j'aime, c'est de pouvoir dire aux gens, ça, non. Là, c'est pas ouf, là. Là, faut travailler.
Mais totalement. Mais totalement, je trouve que ça donne une dimension beaucoup plus profonde à ce que tu fais aussi, tu vois. Et c'est important que les prestataires, ils assimilent ça aussi.
Je suis là pour que l'entreprise, elle marche. En fait, mon aide à moi, c'est pour qu'elle marche dans le domaine où je la porte. Donc, moi, je veux qu'elle travaille avec moi. Et j'aime son projet, donc je veux la porter, donc je veux lui dire si c'est bien ou pas.
Exactement, mais tout le monde ne pense pas comme ça.
C'est pas grave, hein, continue à penser comme ça, nous on pensera autrement, comme ça on sort un peu du lot et on est content.
Exactement, mais moi j'essaye vraiment de trouver la plupart des partenaires comme ça qui en ont vraiment affaire de tout ça et qui m'aident à grandir, quoi. Mais tout ça pour dire qu'en fait, t'es jamais à l'abri d'oublier un truc important.
Et t'as oublié tes trucs importants ?
Pour l'instant, ça va. Je dirais même que les gens sont des fois effrayés de voir à quel point j'ai pensé à tout. Parce que je suis une psychopathe du fait de penser à tout.
Genre, t'as quoi, des to-do list aussi, ou comment tu gères tout dans ta tête?
Tout, j'ai des logiciels de gestion de projet. Ah non, au début c'était tout dans ma tête, parce que j'ai toujours été un peu, tu sais, l'enfant prodige qui réussit pas trop en cours et qui où tout est simple. C'était un peu moi. Enfin, pas prodige, tu vois.
Qui réussit en cours.
Ouais, je réussis.
Sans apprendre.
C'est ça, en fait, si tu veux, j'écoutais en cours et ça me suffisait puisque je retenais bien, j'avais une bonne mémoire.
Détestable.
Voilà, insupportable. Mais après, j'avais une bonne mémoire pour tout. J'avais jamais besoin de me noter quoi que ce soit, tu vois. Jamais. Et là, bah, impossible. J'ai tellement de trucs en tête que, genre, il me faut 50 to-do list différentes, des logiciels de gestion de projet, parce que j'ai 50. Je suis sur 50 plats en même temps, tu vois. Ouais, et même ma stagiaire, pour la petite anecdote, elle est arrivée en me disant « Non, je prends pas de notes, je retiens, tu vois. » Et maintenant, c'est la première sur le logiciel de gestion de projet. Parce que c'est impossible. À un moment, il y a un stade où c'est plus possible, quoi.
Non, mais c'est trop de charge mentale, de toute manière,
ouais.
D'avoir espoir de tout garder en tête.
Ah, et puis dans ce projet, quand t'oublies un truc, il est oublié, hein. C'est-à-dire, d'habitude, quand t'es sur un rythme normal, t'oublies un truc, ça te revient 3 semaines après. Moi, des fois, j'oublie des trucs, mais genre, j'oublie complètement leur existence, tu vois. Quand j'oublie quelque chose, je l'oublie pour de vrai, je passe à autre chose.
Non, c'est là-haut, ça a été ton premier job réel, hormis stage.
Ouais, j'ai fait plein de petites expériences, des travails d'hôtesse, plein de petits trucs, mais c'est la première fois que je fais un vrai travail, ouais.
Donc t'es dans le dur, direct.
Ouais, j'aime bien ça, j'aime bien le côté un peu challengeant.
Et donc, est-ce que tu as eu des difficultés ?
J'ai pas eu de difficultés majeures pour l'instant. J'ai eu plein de petits échecs, plein de petits trucs. Pour l'instant, j'ai pas eu de difficultés énormes. J'ai toujours énormément appris.
Et des échecs ?
Des échecs. L'anecdote que j'aime bien raconter, c'est que, tu vois, là, je t'ai raconté que j'ai gagné le Startup Weekend. En vrai, ça n'a pas été un fleuve tranquille, ça n'a pas été facile. Puisque le Startup Weekend, du coup, c'est, tu le sais, 54 heures pour monter ta boîte. Et le vendredi soir, tu pitches devant les participants, 50 ou 100. Et ensuite, vous formez des groupes. Bah, moi, quand j'ai pitché, personne ne m'a suivi. Ça a été mon premier échec. C'est-à-dire que là-haut, on n'aurait pas dû naître si on en part sur ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pitché là-haut, j'ai dit, voilà, je suis venue pour... parce que j'ai une idée, je trouve que les shampoings actuels sont mauvais pour la planète, pour l'environnement, blablabla. Du coup, j'ai pensé à créer un shampoing naturel. Personne n'a voulu être dans mon équipe. Tout le monde s'en foutait. Basé sur ça, je pouvais même pas participer vraiment, tu vois. J'étais accompagnée par Adrien, que tu connais, qui est un ami à moi. Et en fait, je décide de ne rejoindre aucun groupe, aucun autre groupe, parce que j'étais pas, tu vois, j'étais déçue déjà, forcément, puisque j'avais fait tout ce chemin un peu pour rien. Et aussi parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être que mon projet n'a pas d'avenir, je vais tout simplement retourner dans le circuit classique, tant pis. Et puis, j'ai pas envie de me greffer à un autre groupe parce qu'il y en a aucun avec qui j'ai pas eu de gros coups de cœur sur les projets. Donc, je vais juste suivre le Startup Economy comme ça et puis profiter pour aller manger des crêpes. Donc, en fait, pendant que tout le monde était en train de charbonner avec ses post-it, moi j'étais en train de manger des crêpes et de boire du cidre. Tu vois, l'enfant insupportable, c'est encore moi. Et du coup, le samedi soir, sur les 54 heures, donc il y avait déjà plus de 24 heures qui étaient passées, le samedi soir, je reviens pour dîner avec tout le monde, discuter avec les porteurs de projets, donner des petits conseils en marketing. Et là, l'organisateur se plante devant moi et il m'enchaîne de questions sur la hausse, sur la vision que j'avais du projet, de mon idée et tout. Et au bout de, je pense, 10-15 minutes comme ça, il s'arrête, il me regarde droit dans les yeux et il me dit « En fait, demain, tu vas pitcher et je pense que tu vas gagner. » Et moi, j'étais là genre « Mais il sort d'où? Pourquoi il me dit ça? Je le connais pas. » Enfin, pour moi, c'était fini, quoi. Et là, je lui dis « Mais c'est pas possible, il reste même pas 24 heures. Tu peux pas faire un Startup Weekend en moins de 24 heures, en 20 heures. » Et ben, je l'ai fait. Du coup, je l'ai fait.
Mais attends, tu l'as fait avec juste Adrien?
Ouais, on l'a fait en duo.
Mais vous avez fait quoi pendant ces 20 heures alors?
Eh ben écoute, on a bu beaucoup de café et travaillé sur la présentation, réfléchir. Ben déjà, on a affiné, tu vois. Déjà, on a essayé d'affiner, on a interrogé des gens pour essayer de comprendre quelles étaient les problématiques consommateurs, comment on pouvait y répondre. Enfin, classique, quoi. Ce que tu fais en plusieurs mois normalement quand tu débutes ton projet. Donc, tu fais beaucoup de compréhension du marché, études de marché. Ensuite, tu prépares ton business plan, tu fais un prévisionnel financier. Et puis après, tu fais une présentation, un pitch pour présenter ton projet de A à Z. Avec les produits, ce qu'il y aura dans les produits, quelle est ta vision à long terme, quelle est ta vision à moyen terme, quels sont les moyens financiers que tu vas lever, ce dont tu as besoin, tout ça.
Et les autres, ils ont charbonné, ils ont dû créer des apps, etc., des sites internet. Toi, t'arrives le soir, t'as pris 20 heures et allez, j'ai gagné, au revoir, merci d'avoir cru en moi, je vous aime.
C'était un peu ça. C'était ça. Sauf que moi, je suis vraiment... Dis-toi, franchement, en plus, il y a la vidéo de mon pitch qui n'était pas si bon que ça. Je peux même plus la regarder. Mais il y a la vidéo de mon pitch sur YouTube. Et franchement, tu vois tout de suite, je suis éclatée, quoi. J'ai dormi 2 heures cette nuit-là. J'ai fait une tachycardie le matin à 6 heures avec mon café. J'avais plus trop de café. Enfin, bref.
Mais t'as gagné. Mais ils devaient être dépités, les autres, je me dis.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a certains. Il y en a certains. Et d'autres, c'est devenu des très bons amis.
Mais ça arrivait pareil à Rémi pour son Startup Weekend.
C'est vrai?
Tout le monde a trouvé ça génial. Tout le monde adore. Et le lendemain, il n'y a personne qui veut se mettre avec. Et en fait, il a sorti son projet Epopia qu'il avait laissé il y a 1 an et demi dans son tiroir parce que ça n'avait rien donné, etc. Là, il fait...
L'horreur.
Il avait fait ça tout seul. Il avait parlé aux mauvaises personnes, etc. Donc, personne n'était réceptif à Epopia. Il ressort ça parce qu'un pote le motive à y aller. Et ça me fait rire parce que maintenant, il est jury de Startup Weekend. Et en fait, tout le monde trouvait ça génial. Personne ne voulait suivre. Et il y a un gars, il sort de nulle part. Il fait « Ouais, moi, je te suis et tout. » Il fait « Non, non, vas-y, tu sais quoi, va trouver quelqu'un. Je vais me suicider. Je rentre chez moi et tout. » Et après, il lui fait « Non, viens et tout. » On le fait. Ils vont chez les... Attends, mais ils vont chez les coachs. Et ils font « Mais on n'a plus de salle. » Ils les ont mis dans un couloir.
Énorme. Mais c'est comme ça, hein. Franchement, là, j'ai l'impression que la plupart des projets comme ça, il y en a beaucoup qui galèrent bien au début pour prouver ne serait-ce qu'ils ont de la légitimité. Et après, ça marche quand même, tu vois. Mais moi, ce qui m'avait marqué quand j'ai vu que j'aurais pas d'équipe, ce qui m'a marqué, c'est que je suis allée voir un des organisateurs, Adam, et il m'a dit, tu sais, Lisa, là, t'as pitché devant quoi, 50 personnes. Il m'a dit, mais c'est pas parce qu'il y a 50 personnes qui ont dit que leur projet, que ton projet leur correspondait pas là maintenant, qu'il n'y a pas un marché, que ça représente toute la France. Et ça m'a redonné un peu espoir. Mais c'est vrai que moi, à partir de ce moment-là, j'étais quand même partie sur le principe que là-haut, c'était mort, quoi. Et donc, si je n'avais pas eu cette conversation avec l'organisateur le soir, je ne serais pas là où je suis actuellement, je ne serais pas en train de te parler.
Ouais, souvent, une personne fait tout basculer. Dans les projets entrepreneuriales, c'est souvent comme ça.
Ouais, exactement.
Et je trouve ça beau, en fait, qu'il est venu quand même s'intéresser à toi.
Ouais, alors que franchement, je vais être honnête, j'avais mal pitché le soir d'avant. Enfin, c'était pas mal, mais c'était pas dingue, c'était pas transcendant, tu vois. Et je sais pas pourquoi il est venu d'un coup s'intéresser. J'ai jamais vraiment supporté, on est resté potes, hein, mais je sais pas. Et en fait, je pense que ça résume bien ce qui se passe quand il y a un projet entrepreneurial, c'est que ce qui compte, c'est les gens autour de toi aussi, et que c'est pour ça que c'est hyper important de bien s'entourer quand tu débutes et même quand tu continues l'entrepreneuriat. Parce que c'est les gens qui t'aident aussi, qui donnent une dimension différente à ton projet.
Là, tu me fais une transition exceptionnelle sur la prochaine question qui est...
Parfait.
Mais est-ce qu'on te soutient dans ton projet? Est-ce que ta famille, tes amis te soutiennent? Parce que t'es quand même assez jeune, tu vois, on aurait pu dire...
Ouais.
T'es sûre que tu peux faire quelque chose qui va te rapporter plein d'argent tout de suite et pas te lancer justement dans la vie entrepreneuriale?
Moi, si j'avais voulu de l'argent tout de suite, je pense que j'aurais pris un taf. Parce que là, je pense que j'ai surtout pris une garantie de ne pas avoir de salaire pendant quelques temps. Mais on va dire que je pense que quand t'es entrepreneur, t'es un peu visionnaire sur l'avenir. Tu paries sur l'avenir.
C'est complètement ça, en fait. Et tu vas tellement loin, tu dis, mais non, je peux pas m'arrêter. Ouais, t'as pas de salaire, c'est pas grave.
C'est ça, exactement. Tu dis, je m'en fous, je continue. Après, tu verras, je verrai dans 2 ans si je suis toujours au même point, je me dirai, bon, là, Lisa, t'as eu ta chance, c'était pas le bon moment. Mais on verra. Mais pour répondre à ta question, ouais, je suis bien soutenue. C'est vrai que les parents, c'est pas les plus faciles à convaincre au début. Parce que t'es leur enfant chéri, forcément, ils ont peur que tu te rates. Et que tu te casses quelques côtes, mais au final, c'est comme ça aussi que tu grandis et que tu apprends. Donc voilà, après, les amis, ils m'ont énormément soutenue. Pendant la campagne de crowdfunding, j'ai même une amie qui est venue de Paris. Elle a campé chez moi pendant une semaine, c'était ma secrétaire. Genre, je me levais le matin, elle décidait de l'heure à laquelle je mangeais, elle gérait mon téléphone, elle avait enregistré son visage sur mon téléphone. Elle a réussi à me vendre je ne sais pas combien de shampoings à tous les gens qu'elle connaissait. Folie, enfin, j'ai eu des amis hyper impliqués pendant cette campagne. Puis je m'en suis fait aussi des amis. J'en ai rencontré beaucoup de gens qui sont devenus des amis.
Pendant ta campagne de crowdfunding?
Ouais, pendant la campagne, avant, après, tout le temps. Maintenant, je suis dans des petits groupes d'entrepreneurs, on partage des astuces, on s'entraide. Ouais, c'est beaucoup de partage.
Être une femme entrepreneur, t'en penses quoi? Est-ce que c'est dur ou c'est pas dur?
Moi, je me considère pas spécialement comme une femme. Alors, dit comme ça, c'est très bizarre. Je me considère comme juste une entrepreneur. Et tous les choix que je fais au quotidien, ils sont basés sur ça. Je les fais indépendamment du fait de me dire je suis une femme, alors, tu vois. Je dis juste je fais mes choix. Et voilà. Et ça m'est arrivé 2 fois de sentir, une fois absolument sûre, une fois j'étais pas sûre, de sentir qu'on me traitait différemment parce que j'étais une femme. Et franchement, ça fait très mal. Tout le reste du temps, on m'a beaucoup considérée. Et je pense que ça vient aussi de l'attitude, tu vois, et du fait d'être sûre de soi. Moi, je pense que j'essaye en tout cas de renvoyer une image assez sûre de moi. Et du coup, tu vois, j'essaye d'avoir une crédibilité et une image sûre de moi de façon à ce que les gens ne me remettent pas en question en tant que personne et après en tant que femme. Après, les trucs sexistes, c'est le pire truc au monde parce que tu peux rien y faire, quoi. Si une personne, elle considère que t'es inférieure parce que t'es une femme, tu peux rien y faire parce que ça fait partie de ta nature propre, tu vois. Je veux dire, la crédibilité, je peux m'améliorer, l'âge, je peux vieillir et encore. Mais le fait d'être une femme, bah désolée, je le serai toujours, tu vois. Et moi, j'ai eu cette expérience-là, que j'ai partagée sur LinkedIn d'ailleurs, où je suis allée rencontrer plein de banquiers pour faire un prêt bancaire. Et il y avait, je suis tombée sur le banquier de la banque avec laquelle j'ai grandi, où j'ai mes comptes bancaires, mes parents leur compte bancaire, ils ont le compte de leur entreprise, donc c'est censé être la banque qui sort le tapis rouge, tu vois. Et du coup, oui, je tombe sur ce conseiller-là, qui est un conseiller entreprise, bon, par contre, je ne le connaissais pas particulièrement. Et voilà, je lui explique que j'ai une garantie de prêt, que j'en suis là, etc. Et il me dit, ok, mais déjà, il me parlait très bizarrement. J'étais un peu, il me déstabilisait beaucoup. Et puis, il me dit, mais comment vous allez faire si votre mari vous quitte? Et je le regarde et je rigole parce que je me suis dit, ça peut que être une blague. Le mec a 30 ans et il me parle d'un mari. Je viens de lui dire que je suis étudiante et que j'ai 23 ans, tu vois. Et je rigole et il me dit, en plus, si vous avez des enfants. Et là, je le regarde et je me dis, il se fout de ma gueule. Genre, c'est pas possible. Et là, je rigole et je lui dis, mais si, vous avez pas vu, j'ai la poussette devant le Crédit Mutuel. Il a pas rigolé. Et puis finalement, bah, c'est très simple, je suis sortie de la banque, j'ai pris mon téléphone, je lui ai envoyé le mail dans le sas de la banque en disant, écoutez monsieur, merci pour votre temps, mais ça va pas le faire, quoi. Et là, en fait, je me suis plus sentie puissante qu'autre chose parce que derrière ça, j'avais bien 5 ou 6 banques qui voulaient partir avec moi, donc si, tant pis. Par contre, le jour où ça m'arrive et que j'ai pas d'option B, là ça va être différent. Là, je vais mettre le poing sur la table.
Mais t'avais le même banquier que Adrien ou quoi?
Non, pas du tout. Maintenant, j'ai le même banquier que lui, ouais.
Tu connais son histoire, hein, de banque comme moi. Ça m'a fait un peu mal au cœur, hein, quand il m'a dit qu'il avait tellement galéré et qu'il voulait pas lui donner le prêt et qu'il voulait même pas lui donner.
Je crois que c'était... Oui, c'était au tout début de son projet, ouais. Mais maintenant, j'ai le banquier bien d'Adrien. C'est celui qui est bien.
Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui voudraient se lancer, mais qui ont peur, en fait, de passer à l'action?
Moi, je crois qu'on combat la peur avec le rationnel. Et c'est très bizarre dit comme ça aussi. Mais le rationnel, c'est quoi? C'est de se rassurer. Et comment se rassurer? Ben, tout simplement en faisant toutes les étapes avant de lancer son projet. C'est de sécuriser son idée, d'être sûr que son idée, elle va vraiment répondre à un besoin, qu'elle n'est pas juste pour soi-même. Et du coup, pour ça, rien de mieux que de faire une vraie étude de marché et d'aller chercher une preuve de concept. Donc, en fait, pour moi, faut pas avoir peur dans un projet. Faut juste être rationnel et se dire, je ne m'inquiète que des choses que je peux changer, sur lesquelles je peux agir, tu vois. Sur quoi je peux agir? Sur mon business plan, le positionnement de mon produit, la qualité de mon produit, mes valeurs, tout ça, ce sont des choses que je peux changer. Donc, si t'as peur, accroche-toi à ça. Et c'est ce que j'ai fait finalement. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait la co-création.
Je voudrais savoir quel est ton plus grand défaut.
Ah, bonne question. Mon plus grand défaut historique, c'était la curiosité. Mais c'est pas un défaut.
Oh alors là, excuse-moi, ça c'est comme si tu passais un
autre. Ouais.
L'embauche.
Je suis d'accord.
Le défaut de qualité, quoi.
Je suis d'accord, c'est pour ça qu'il est nul. Mais sinon, je dirais que mon plus grand défaut, c'est que des fois, j'ai tendance à m'éparpiller. C'est que j'ai beau... Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai 36 to-do list et 36 trucs pour essayer de m'organiser. C'est parce que je sais que je vais avoir tendance à m'éparpiller, à vouloir tout faire, tu vois. J'ai envie de tout faire. Faut que je me pose et que je me dise, ok, là, concentre-toi sur ça, tu vois. Et c'est un défaut qui est assez courant chez l'entrepreneur. Parce que forcément, quand tu te lances, t'as plein d'idées, plein de choses à faire. Et donc, t'as tendance à t'éparpiller. Mais moi, en plus, ça fait partie de mon caractère. Donc, je le travaille deux fois plus.
Qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte?
La logistique. C'est mon cauchemar, franchement, l'enfer. Je passe des heures à comparer les devis, à essayer de comprendre. En plus, ils ont tous tous une façon de fonctionner différente. Tous. Enfin, j'ai pas réussi à en trouver deux qui fonctionnent exactement pareil. Et du coup, il faut essayer de décrypter ce qu'ils font. Et ensuite, comparer, regarder si c'est plus avantageux que toi. Il y a tellement de choses à penser. En plus, ça coûte cher. La logistique, ouais, sans aucun doute.
La logistique, c'est-à-dire?
C'est-à-dire l'envoi des colis. Qui envoie les colis, comment on les envoie, B2C et B2B, donc aux clients et aux magasins bio, quoi faire. C'est la préparation des colis aussi, hein. Tout ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte, qui coûtent cher, qui sont complexes. Voilà, mais là, je pense que j'ai trouvé mon partenaire. Je suis pas encore sûre à 200%, mais je pense que je l'ai trouvé, donc je suis contente. Mais une fois que c'est mis en place, c'est bon, après, t'es tranquille, tant qu'il n'y a pas de problème.
Pour la préparation, c'est dans le labo, etc. C'est comment?
La préparation des colis?
Ouais.
Non, au début, je voulais les gérer moi-même. J'ai fait une analyse de coûts énorme pour regarder ce qui était plus intéressant entre moi et les logisticiens. Et puis finalement, j'ai décidé que c'était plus intéressant par le logisticien, de passer par un logisticien.
Oui, parce que même toi, à côté, tu peux faire plusieurs choses.
Bah ouais, c'est ça, en fait. Si tu veux, le problème, c'est que si je dois tous les matins regarder quelles sont les commandes, imprimer les étiquettes, ouvrir les cartons, mettre en forme le carton, chercher les produits, les mettre dedans selon le nombre de colis, ensuite fermer les cartons, scotcher, aller à la poste, revenir, ben tout ça, ça te prend facile une heure tous les matins. Ben, c'est du temps que tu peux utiliser pour d'autres choses, finalement.
Oui, complètement, à faire grandir là-haut, quoi.
C'est ça, exactement.
Est-ce que tu as une anecdote honteuse à nous raconter?
Bah du coup, mon anecdote honteuse, c'était le pitch qui était raté au Startup Weekend. Donc tu m'as chopé sur celle-là. Est-ce que j'ai une autre anecdote honteuse à raconter?
C'est une petite honte.
Non, pas particulièrement, parce que... Et ça fait partie de mon côté perfectionniste insupportable. C'est que... Je fais tellement tout pour me protéger des problèmes que j'ai rarement de honte comme ça. Tu vois, je me dis toujours, je fais au mieux. Tout ce que je peux faire le mieux possible, je le fais. Je connais les faiblesses de mon produit. Tu vois, par exemple, la pompe en plastique. Mais j'essaye de trouver des solutions, donc c'est pas vraiment une honte, tu vois, j'en ai pas vraiment honte.
Non, mais ça, c'est... Voilà, c'est aussi ce qu'il y a sur le marché aussi, qui est à disposition.
Ouais, exactement. Ouais, t'es obligé de faire avec ce qu'il y a. Hein.
Et pour finir, quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné?
C'était de bien s'entourer.
Ouais.
Encore une fois, ça c'est le conseil, c'est trop important de s'entourer pour déjà mentalement tenir à cause de la charge mentale, partager ses doutes, ses questions, et puis ses bons moments aussi. Et voilà. Et quand je parle de bien s'entourer, c'est pas que ses amis et sa famille, même si c'est important, t'as besoin de t'entourer de gens qui font le même métier que toi, qui sont dirigeants de boîte, qui ont aussi 40 000 casquettes et qui ont les mêmes problèmes que toi, parce que ça t'aide, c'est tout bête, mais tu peux des fois résoudre des problèmes en 30 secondes, quoi. Tu vois, l'autre jour, j'étais au téléphone avec une marque de vêtements responsable, et je sais plus de quoi en parler, mais je leur sors un truc pour leur donner un petit conseil, tu vois, un petit coup de pouce, parce que je sens qu'elles ont un blocage sur un truc. Et elles me disent « Ah ouais, c'est dingue, c'est trop gentil, merci, nous, il n'y a personne qui nous donne des conseils parce qu'on n'est pas du tout dans des groupes d'entrepreneurs et tout. » Je trouve ça trop dommage.
Mais c'est hyper important de s'entraider entre entrepreneurs, en fait.
Ouais.
Que ce soit des groupes de freelance, des groupes
totalement
de CEO. Et pour finir, qu'est-ce que je peux te souhaiter et souhaiter à Lao?
Ah, tu peux nous souhaiter un très beau lancement en début d'année parce que là, on est sur la production. Donc, on est en train de tout préparer pour la prod. On va commander les matières premières, les flacons. On est en train de finir les décors, les aspects réglementaires. Donc, tu peux nous souhaiter que le lancement officiel, donc le jour où on sera plus en précommande, ben, ça va cartonner. On est en train de tout faire pour en tout.
Ben, merci beaucoup pour ta participation.
Ben, merci à toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste 2 minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts si tu as un iPhone. Sinon, tu peux me suivre sur Spotify. Ça me permettrait de me faire connaître en remontant, tu vois, dans l'algorithme. Ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.